podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré chez un équipementier automobile français avec Claire Dachon, design studio manager chez Plasticomium. Après nous avoir présenté son parcours, Claire nous parle des compétences des designers chez Plasticomium, de son évolution depuis 6 ans dans ce groupe industriel et nous raconte l'importance du choix des mots, de leur sémantique, pour être à la bonne place dans l'entreprise, la différence entre styliste et designer, ou entre les mots designer et concepteur dans l'industrie. Vous découvrirez que dans cette entreprise de plus de 40 000 employés, le design studio n'existe que depuis peu et qu'il est constitué d'une toute petite équipe. Claire Dachon en est le manager. Elle nous explique de quelle division le studio dépend, ses missions opérationnelles, méthodologiques et stratégiques. Elle nous montre qu'à travers le travail du design studio, Plasticomium arrive aujourd'hui à collaborer avec les constructeurs automobiles internationaux et à réfléchir à la mobilité de demain. Je vous laisse découvrir cet épisode. Merci d'écouter Raconte, le podcast sur le design intégré en entreprise de la CDI. Si vous aimez cet épisode, partagez-le autour de vous.
Bonjour Claire, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Pour commencer, peux-tu nous présenter ton parcours, s'il te plaît ?
Bonjour Annabelle, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation de ce podcast et je me réjouis d'avance de pouvoir partager un peu mon expérience dans le design. Ma présentation, alors moi je m'appelle Claire Dachon, j'ai 40 ans et puis je suis dans le design sur mon parcours professionnel depuis environ 14 ans. Et puis je suis pas tombée dans le design par hasard, je crois que j'ai toujours voulu être designer d'une certaine façon. Et je vais commencer par mes passions parce que depuis toute petite, je suis absolument passionnée de chevaux et de voitures. Et quand je parle de voitures, aussi bien les anciennes que les modernes finalement. Et je crois que c'est là que j'ai dû aiguiser mon regard sur le produit ou sur l'animal parce que l'animal, c'est du vivant. Mais il y a toute l'esthétique autour du cheval qui nous rend très sensible quand on est intéressé par les animaux. Et les voitures parce que je crois que la perspective, les jeux d'ombre et lumière, les proportions... Le charisme ou l'expression design que renvoie une voiture est vraiment assez complète, je dirais. Donc, un amour pour le produit depuis toute petite et je me suis assez rapidement orientée sur un parcours créatif. Donc, j'ai fait un brevet de technicien dessinateur maquettiste au lycée. Donc, c'est l'équivalent du bac art appliqué finalement. Et j'ai intégré ensuite l'école de design de Nantes Atlantique. Voilà, sur un parcours design produit. Et puis, j'ai voulu assez rapidement me spécialiser dans l'automobile. Donc, je voulais pas tout de suite rentrer dans une école de design transport, premièrement parce que c'est assez onéreux comme école. Et de plus, je savais pas si j'allais pas m'enfermer juste dans un secteur. Et le design industriel, finalement, ça a été le parfait parcours. Et par mes stages, je me suis spécialisée un peu plus dans l'automobile. Donc, je suis allée chez Vedeo Siemens Automotive à Rambouillet à l'époque. Ça, c'est Continental aujourd'hui. Innovo Design à Turin pour mon stage de 6 mois à l'étranger. Et puis, j'ai terminé chez Magna Steyr à Paris, à Bièvre, côté de Vélizy, chez un équipementier finalement. Et donc, c'est là que j'ai beaucoup appris sur l'industrie automobile. Et à partir de là, j'ai passé mon diplôme tout simplement, donc diplôme de design industriel, cursus produit. Et donc, Magna Steyr a voulu que je continue à travailler avec eux pour finir de designer, on va dire plutôt passer en série, un quadricycle électrique utilitaire, qui était d'ailleurs quasiment un de mes sujets de diplôme. Donc, pour ça, il a fallu que je crée mon auto-entreprise, parce qu'il ne recrutait pas à l'époque, mais il voulait continuer le projet avec moi, et donc on l'a emmené jusqu'au bout. Et en parallèle, Elias Bus, du groupe Fiat Industrial, cherchait un nouveau responsable du design. Et donc ça, c'est le chargé des relations extérieures de l'école de design qui m'a contacté à l'époque en me disant, voilà, on te connaît féru de tout ce qu'il y a des roues. Est-ce que rentrer dans le design de transport public, ça t'intéresse? Donc j'ai tout de suite sauté sur l'occasion parce que j'avais aucune ambition d'être auto-entrepreneur au final. La sécurité de l'emploi, c'est un vrai sujet. Et surtout, se stabiliser sur une expérience dans une entreprise. Voilà, donc en 2009, j'intègre les bureaux de design Elias Bus et finalement, j'étais toute seule parce qu'il n'y avait qu'un seul designer et j'ai quand même eu quelques stagiaires pendant 3 ans. En parallèle, j'avais mon activité freelance également que j'ai toujours, mais c'est pas la priorité. Au bout de 3 ans, ça se passe très très bien. Il se trouve qu'il y a une fusion du groupe Fiat Industrial qui devient CNH Industrial. Donc, c'est Case New Holland, le matériel agricole, et ça a intégré également la marque Iveco, avec tout ce qui concerne les véhicules commerciaux, les autocars et les autobus. Et donc, il y avait déjà une équipe de design à Lyon, à l'époque, et les Italiens sont venus me chercher en disant « ce serait bien que tu rejoignes l'équipe de design pour Ivecobus ». Et je leur ai dit « ok, mais dans ce cas-là, je veux bien venir, mais si je fais 1000 km et que je déplace ma vie chez vous, je veux bien reprendre les rênes de l'équipe de design ». Ce que j'ai fait au final, j'ai eu un an quand même de période de transition pour comprendre un peu les autres produits, parce que la gamme était beaucoup plus large. Et donc, j'ai gardé la marque Liesbus et récupéré toute la marque Ivecobus, plus l'équipe. Voilà, donc ça a été, je dirais, 5 ans de gros travail de restyling de toute la gamme Euro 6. À l'époque, il y avait toutes ces normes environnementales qui dictaient des nouvelles motorisations. Et on a dû peaufiner, vraiment améliorer la nouvelle design guideline et le branding, puisque avant, la marque, c'était Irisbus Iveco. Et il a fallu changer tous les logos, toutes les faces avant, faces arrière pour les motorisations. Donc, on en a profité pour redesigner les intérieurs, les postes de conduite, etc. Donc, c'était un gros chantier sur des produits lourds, longs, gros, tout autour de la métallurgie. C'est quand même des véhicules qui sont faits à la main. Donc ça a été un sujet passionnant, parce qu'on a 5 clients, en fait, en tant que designer, quand on travaille dans ce milieu-là. On a tout d'abord le end user, celui qui va prendre le bus, comment est-ce que ou l'autocar, hein, comment est-ce qu'on peut lui proposer les meilleurs services, le meilleur confort à bord, hein, qu'il soit thermique, acoustique, ergonomique, visuel, etc., etc. Ensuite, on va avoir le politique, celui qui va financer le produit, parce qu'ils achètent ça en flotte, hein, quand même. Des fois, ils en achètent 5, des fois, ils en achètent 500, donc c'est pas du tout les mêmes budgets. Ça peut être conséquent. On a les exploitants en troisième, évidemment, ceux qui vont acheter des flottes pour leur collectivité. Et ensuite, on peut avoir toutes les personnes autour de la maintenance, en fait, du véhicule. Alors, ça va du mécanicien de chez l'exploitant jusqu'à la femme de ménage ou les hommes de ménage qui vont gérer le nettoyage des véhicules après chaque journée. Donc, on se retrouve avec énormément de contraintes et on doit penser à beaucoup d'usages, finalement. Donc c'est très polyvalent comme métier, j'ai trouvé ça passionnant. Et donc en accumulant les 3 ans chez Liesbus et 5 ans chez CNHI, donc Ivecobus, on accumule 8 ans d'expérience dans la métallurgie, un milieu qui est très particulier mais qui s'est très bien passé. J'ai aussi envie de parler de mon rôle de femme aussi dans ce milieu d'hommes, qui n'a jamais été un problème, dans le sens où quand on est passionné et qu'on aime son produit parce qu'on travaille pour sa marque, en fait, on est pertinent à partir du moment où on apporte des solutions dans le sens du progrès. Voilà. Après ça, j'ai voulu aller dans l'automobile parce que c'était aussi une ambition, une intention de départ, être designer automobile. Peut-être pour la petite anecdote qui en fera sourire certains, à 22 ans, pendant que j'étais dans mes études de design, je me suis dit, je me répétais sans cesse cette phrase que j'avais entendue lors d'une conférence ou lue dans un bouquin, je sais plus, mais de la fonction découle la forme. Aujourd'hui, c'est plus ça. Hein. Aujourd'hui, c'est l'usage dessine le produit. Et donc, à l'époque, je me suis dit, Claire, si tu veux être designer automobile, il faut impérativement que tu saches comment ça fonctionne. Donc, j'ai acheté une ancienne voiture à mes 22 ans, que j'ai achetée sur eBay à 300 € et quelques, et je l'ai entièrement restaurée. Et c'est une voiture avec laquelle je fais des rallyes maintenant. C'est une voiture des années 70, une Mazda. Très rare d'ailleurs, mais très, très marrante. Et en fait, quand on touche à tout, c'est aussi bien l'électricité, le moteur, la sellerie, toutes les liaisons au sol, ce qui concerne la sécurité, l'ergonomie, l'acoustique, le confort thermique, on se rend compte que on devient assez complet. Et même l'expérience de conduire, hein, c'est se mettre aussi derrière le volant, c'est pas juste une voiture, c'est pas juste un produit esthétique. Et puis il y a le premier impact visuel qui est extrêmement important, qui va faire que les gens planchent ou pas et vont mettre la main au porte-monnaie pour s'acheter telle ou telle voiture. Voilà. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens vont choisir telle ou telle marque de voiture aujourd'hui. C'est ça qui est passionnant. Et donc, j'intègre Plasticomium en 2017. Et ça a été un gros changement, parce qu'on passe de la métallurgie à la plasturgie. Donc, les conventions sont pas les mêmes. Donc, j'intègre Plasticomium comme un designer intégré. Au sein de cette entreprise, il y avait plus de designer intégré depuis presque 10 ans. Alors, je sais toujours pas pourquoi. Et en même temps, j'ai ma petite idée. Je crois que le métier du design, et particulièrement quand il est intégré et en plus chez un équipementier, c'est pas du tout une culture connue. Le design, c'est un métier qui est extrêmement jeune. Et donc, il faut des années pour que les gens l'intègrent et le comprennent et en comprennent surtout la valeur. Donc, quand je suis arrivée chez Plastic Omnium, et peut-être que je vais même commencer par parler de mon entretien d'embauche, ils m'ont dit, bah, nous, on a besoin d'un styliste automobile. J'ai dit, bon, bah, ok, mais vous avez besoin d'un styliste automobile, pourquoi? Et quand ils m'ont expliqué ce dont ils avaient besoin, et là, j'ai été interviewée par des personnes qui étaient à la ligne de produit et à l'innovation, je me suis dit, mais c'est pas du tout un styliste qu'il vous faut, c'est un designer. Voilà, c'est un designer qui a une stratégie, qui va pouvoir vous ouvrir les portes des design centers, des constructeurs, pour créer un lien en amont, parce que la relation engineering, elle a toujours existé au final. Et ce qui manquait, bah, c'est peut-être le temps juste d'avant. Si on veut être au courant des tendances et être prêt pour le futur et avoir le temps de développer nos innovations, nos produits, il faut remonter un peu dans le temps. Et ceux qui détiennent les idées, eh ben, c'est les designers. Et pas que, évidemment. Il y a aussi l'advanced, il va y avoir les gens au produit. Mais en tout cas, il fallait mettre ça en place et je leur ai dit, bah, écoutez, moi, je pense que je suis capable de vous apporter quelque chose d'un peu plus large que le simple styliste, entre guillemets. Et c'est peut-être là que je vais mettre les pieds dans le plat en faisant la différence entre le style et le design. C'est que le styliste, pour moi, nous, on a cette compétence, hein, dans notre démarche design. On a évidemment dans le process une partie style. Le style, c'est une phase où on va prendre en considération les tendances. On va donner une expression au produit ou une intention visuelle avec des formes, des gabarits, des proportions. On va vraiment donner quelque chose de, une réponse conceptuelle également. Et puis, avec des couleurs, des matières, des finitions, etc. Donc, c'est donner une intention illustrative, mais qui sera encore loin du produit industrialisable. Et c'est là que le design est plus complet. C'est qu'il va prendre en compte toutes les étapes dans la chaîne de valeur, finalement, d'une entreprise. Il va prendre en compte les contraintes techniques, les process appliqués. Il va également travailler en binôme avec l'engineering pour s'assurer que il pourra délivrer un produit conforme aux standards automobiles, standard pour beaucoup, beaucoup de choses d'ailleurs, qu'on puisse garder une intention style, mais en respectant ou plutôt en adaptant le produit de façon à ce qu'il passe tous les cahiers des charges. Donc, c'est extrêmement technique et au final, le designer, il est aussi ingénieur que designer. Et puis, il a un panel de compétences qui est extrêmement large. Donc, si je devais un peu rentrer dans le détail des compétences du designer, c'est très, très divers. Hein, ça passe par du management. Alors, management, moi, aujourd'hui, je suis manager du design studio. Mais le designer, il va faire du management transversal, un management projet. Il va faire de la stratégie. Il va créer une vision. Il va avoir du design intellectuel, du design produit, transport, graphique, CMF, donc couleur et matière, du style, évidemment. Il va travailler sur l'identité visuelle, les design guidelines, comprendre l'ADN d'un constructeur. Il va être le traducteur du langage design entre l'engineering et le design, le monde du design. Il peut être conférencier, il peut être commercial, il peut être politique, etc. Enfin, je crois que c'est extrêmement large, tout ça. Pour revenir sur le parcours chez Plastic Omnium, alors pour comprendre Plastic Omnium en deux, trois mots, qui nous sommes, un équipementier automobile de rang 1, leader sur le marché des pare-chocs et des haillons. Donc, si vous regardez un petit peu sur la route, vous pouvez imaginer qu'une voiture sur 6 est équipée d'un pare-choc Plastic Omnium et une voiture sur 3 d'un haillon. Donc, c'est énorme. C'est plus de 90 clients, plus de 90 constructeurs, alors aussi bien historiques que newcomers. Hein. Les historiques, on va parler de Stellantis avec les marques Peugeot, Citroën, DS, etc. Ou Ford. Et puis les newcomers comme Tesla, Lucid, Link & Co, etc. Plastic Omnium, c'est aussi 5 divisions. Alors il y a 2 grands pôles, je dirais. Il y a celui sur les éléments de carrosserie extérieure et celui sur le powertrain. Voilà. Donc on a 5 divisions. Celles qui font partie des éléments extérieurs de carrosserie, c'est la division IES. Ça, c'est vraiment les éléments de carrosserie pure et dure. PO Lighting, donc tout ce qui concerne l'électronique et tout le lighting, finalement, toute la fonctionnalité d'éclairage. Et les modules, Les modules, c'est, on va dire, un peu toute l'interface entre la peau extérieure d'un pare-choc ou d'un hayon et le lien qu'il y aura entre cette carrosserie extérieure et le châssis. Donc, pour un pare-choc, ça va être le crash management system, voilà, tous les équipements qui sont pas visibles, entre guillemets, mais qui sont nécessaires au cahier des charges, à la sécurité, etc., etc. Et les deux autres divisions, CES et New Energy. CES, c'est tout ce qui concerne les racks de batterie, les réservoirs, et New Energy, tout ce qui concerne la partie hydrogène. Voilà, donc c'est 100% automobile aujourd'hui. Et puis, c'est implanté à travers le monde, beaucoup d'usines partout, beaucoup de centres de recherche et développement, au-delà de 40 000 employés, et puis un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards. Donc, c'est une grosse machine. Et j'ai vu en Plasticomium un potentiel énorme de développer le design. Aujourd'hui, nous, on fait partie de l'innovation dans la division IES, Intelligent Exterior Systems, qui est vraiment tout ce qui concerne les panneaux de carrosserie extérieure. On est 3 designers, et puis on a fait beaucoup de progrès en 6 ans, je dirais. Donc en arrivant, j'étais simple chef de projet design et innovation. Il a fallu que je prenne mes marques pendant 1 an et commencer à créer ce que je voulais pour le design studio. Donc j'ai créé le design studio avec un petit logo et puis j'ai commencé à faire ma com du design en interne, aussi bien auprès des personnes avec qui je travaille tous les jours, les opérationnels, les chefs de projet, d'autres managers, et puis remonter l'information au top management. Donc on a 2 façons de communiquer, je dirais, entre les personnes du terrain et les personnes un peu plus high level. Voilà. En 2019, l'innovation s'est réorganisée, puisqu'on était en matriciel et là, on est passé plutôt sur une organisation par pilier. Et donc, ils ont ouvert un poste de manager pour le style et le design. Donc ça a été un petit peu ma porte d'entrée au management chez Plasticomium, ce qui était très bien. Je me suis dit, ça y est, on aura une strate en moins dans la hiérarchie pour faire passer les idées, donc c'est super. Et on se retrouve à ce moment-là tout de suite rattaché au directeur innovation, qui lui reporte au CEO de la division, qui lui-même reporte au PDG du groupe. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de strates finalement entre le top management et nous, et ce qui est plutôt super parce que plus on est proche de la direction, et mieux c'est pour faire passer nos idées. C'est très important pour avancer quand on est designer intégré en tout cas. Et donc le style et design, j'avais certainement quelque chose comme une dizaine de personnes avec moi dans l'équipe, quelques cadres, ingénieurs, des design leaders, et puis des chefs de projet pour ce qui concernait les éléments de décoration, et puis des designers comme on l'entend aujourd'hui. Quoi. Voilà, et ça c'est un vrai sujet chez Plasticomium, c'est le mot « design ». Le wording, il est très très compliqué à gérer, puisque depuis tout temps, quand on dit « designer » chez Plasticomium, c'est le concepteur, c'est le CAD engineer, c'est le design leader, etc., c'est celui qui fait de la conception, de l'engineering et qui va créer, on va dire, la partie technique. Donc moi, j'arrive en disant je suis designer, donc les gens savent pas exactement ce que je fais, donc ils me disent ok, on va utiliser un mot un petit peu plus simple pour que les gens comprennent ce que vous faites, on va utiliser le mot style. Donc j'ai dit bon ok, si c'est la stratégie qu'il faut, et ben on va commencer avec ça. Donc ça a duré 2 ans, et au bout de 2 ans, je me suis dit je suis pas légitime à manager des cadres, ça devrait pas être comme ça. Donc on a réfléchi avec la direction. Et pour qu'au final, je reste purement design. Donc, ils se sont dit, bon, on va rester purement style, on va te donner le wording style, et puis tu seras le manager du style. OK. Et en fait, on a finalement trouvé le bon terme maintenant, c'est que maintenant, je suis manager du design studio. Design studio, c'est un terme un peu universel qui parle à tout le monde. Et voilà, on en est arrivé pour un mot, il nous a fallu 5 ans. pour au final trouver le bon wording pour que ça puisse être un langage qui parle un peu à tous. Maintenant, de là à savoir ce qu'on fait exactement, ça c'est une autre histoire, parce qu'il faut passer 1 heure par personne pour leur expliquer les choses, parce que chacun entend la chose différemment. Donc c'est très très long. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre?
Est-ce que tu pourrais nous parler de l'organisation du design par rapport aux différentes marques? Parce qu'en fait, tu l'as dit tout à l'heure, chez Plasticomium, vous travaillez pour plusieurs marques, donc des émotions complètement différentes suivant les marques et suivant l'engagement qu'elles peuvent avoir et leurs valeurs. Et donc, vous, comment vous arrivez à répercuter ça sur votre travail pour réussir à créer des pare-chocs et des haillons pour chacune des marques et chacune des gammes que vous traitez?
Alors, peut-être que je peux vous parler du rôle et des missions que l'on a au Design Studio. Il y a une partie qui est opérationnelle. La partie opérationnelle, il y a plusieurs compétences que l'on déploie, ou plusieurs missions que l'on déploie plutôt. La première qui est très stratégique, qui est le Customer Intimacy. Donc, ça veut dire qu'on va discuter de Design Studio à Design Center. Donc, nous, on va créer le lien, on va ouvrir les portes des Design Center chez les constructeurs, parce que c'est, on innove pas que sur le produit, mais on innove dans les relations quand on fait ça. On a besoin de travailler main dans la main en amont avec les Design Center. C'est ce que je disais tout à l'heure, pour obtenir les tendances, leurs stratégies, etc. Donc, il y a 6 ans, on travaillait dans ce sens-là, où on allait taper aux portes en disant « Bonjour, alors vous faites quoi en ce moment? C'est quoi la tendance? Est-ce qu'on peut regarder si on a dans notre portfolio produit actuellement quelque chose qui pourrait vous correspondre? Ou bien, dites-nous ce dont vous avez besoin et on va le designer ou on va le développer. » Et au final, on est tellement dans un shift énorme aujourd'hui dans l'industrie automobile qu'au final, les constructeurs, ils se posent tous la même question et nous, on commence à se poser les mêmes questions qu'eux. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? C'est quoi la mobilité du futur? Et j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans l'attente que nous, on leur propose des choses. Et donc, qu'on soit proactif, qu'on ait des solutions innovantes parce que c'est nous les experts de la technologie et de la technique au final. C'est pas eux. Donc, eux, ils ont des idées généralistes, mais nous, on est dans le détail, on est des intégrateurs, on est des transformateurs. Et donc, on se dit, OK, si nous, on n'est pas capable de leur apporter des nouvelles solutions, qui va les deviner au final? Donc, on a changé de positionnement au Design Studio depuis 2-3 ans et maintenant, on se positionne comme des influenceurs de l'innovation chez PO et influenceurs des technologies pour les constructeurs. Et en fait, ça marche plutôt pas mal comme ça. Donc, le Customer Intimacy, on met en place des rituels par des meetings très réguliers. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Tout dépend la relation qu'on a avec eux d'un point de vue projet. Voilà. Et donc, en faisant ça, nous, on va reporter des idées ou des intentions auprès de l'engineering. Donc, on devient des traducteurs du langage design entre les design centers et l'engineering PO. Et ça, c'est super important parce que c'était un vrai, vrai point bloquant jusque-là. Donc, ça, on a déverrouillé la chose et ça va être très long à mettre en place puisqu'on travaille avec 90 constructeurs, mais certainement une dizaine ou une quinzaine très stratégiques avec lesquels on a des relations presque quotidiennes. Donc, ça, c'est un point pour le business, design to business, qui est extrêmement important. Customer intimacy en premier. Le deuxième, on participe à des projets constructeurs, évidemment. Donc, c'est sous des RFQ, Request for Quotation, ou des RFI, Request for Innovation, ou Information. Et là, soit on travaille directement pour eux parce qu'on a une consultation, et ça, c'est de façon active, soit on travaille de façon proactive où on va les démarcher. On va sketcher des nouvelles intentions de face avant avec, évidemment, respectant l'ADN. Si on travaille pour un Allemand, un Américain, un Français, on respecte son ADN et son identité. Ça, c'est ce que nous, on est capable de faire en tant que designer. Et puis, on leur propose des choses, on va les teaser, en fait, d'une certaine façon. Ça prend ou ça prend pas. Mais ça fait partie de l'innovation et du business, la partie un peu stratégique commerciale dans notre métier. Le troisième point, on va s'occuper du design pour les produits PO. Donc, tous les showcases qu'on a, un nouveau concept de bumper ou un nouveau concept de haillon, on va le packager avec un style qui va être assez attractif et un style très généraliste parce qu'on peut pas avoir une identité trop chinoise ou trop allemande ou trop espagnole. Voilà, donc on essaie d'être très généraliste et c'est là où l'exercice est très délicat. C'est comment réussir à avoir une face avant qui va parler à tous. Donc on se repose la question tous les jours. En plus, on a toutes les contraintes techniques, donc on passe notre temps à faire des allées et venues avec les ingénieurs pour s'assurer qu'on puisse conserver les standards automobiles d'un point de vue qualité perçu style. Ce qui me fait justement faire le lien avec le quatrième point, qui est toute la partie modelage numérique, hein, donc les classes A, les définitions classe A des surfaces A-side, tout ce qui est esthétique et visible. Et là, c'est un vrai enjeu, et c'est là où on a eu un des plus gros progrès, c'est que depuis 2017, il n'y avait pas forcément cette réflexion sur la qualité perçu style. Et là, on sous-traite cette compétence. Pour l'instant, là, on n'a pas encore réussi à convaincre de l'intégrer, alors que c'est un must-have. Le modelage numérique, designer modeler, c'est une compétence qui est absolument nécessaire pour le passage du design 2D à la production. Et de là, on intègre la qualité perçue. Donc, on n'a plus vraiment à rougir aujourd'hui des maquettes bonnes matières que l'on présente, puisqu'on a une vraie qualité type série. Et puis, on respecte tous les standards. Alors, la qualité perçue, c'est très vaste. Ça va aussi bien du jeu à fleurement que sur la façon dont la lumière se déplace, la tangence entre les surfaces, les proportions graphiques, les différents éléments graphiques qu'on peut retrouver sur une calandre ou sur une entrée d'air ou des choses comme ça. Donc c'est absolument passionnant comme sujet, c'est hyper précis et en même temps tout ça c'est très technologique et très technique. Donc ça c'est la partie opérationnelle et si ensuite je devais parler de la partie plus méthodologique et stratégique, on va parler de la démarche design dans laquelle on a intégré. Alors moi je me suis un peu auto-formée au design circulaire pendant le confinement, quelques formations en ligne, j'ai discuté avec une ancienne camarade de l'école de design et j'ai commencé à comprendre qu'en fait le rôle du designer il avait une responsabilité qui était de plus en plus grande, de vraiment de plus en plus importante. C'est-à-dire qu'avant, le designer, il arrivait dans une entreprise, si je parle du milieu de l'entreprise, évidemment, et puis il s'affranchissait des process industriels, des outillages. Il avait juste à dessiner quelque chose et le sortir avec les bons standards et la bonne qualité, et puis ça allait. Aujourd'hui, si on réfléchit pas à d'où on va extraire la matière, quel fournisseur on va choisir pour les matières premières, parce que c'est pareil, ça impacte toute la chaîne de valeur, comment est-ce qu'on va le produire de façon à ce qu'il s'assemble facilement, qu'il soit optimisé, qu'il soit décomplexifié dans sa typologie de produits, et puis jusqu'à sa seconde vie. Bah évidemment, il y a tout l'usage, enfin voilà, tout le life cycle du produit est extrêmement à prendre en compte. Donc là, on réfléchit différemment. Maintenant, quand on pense à un produit, qu'on veut le dessiner, on va vraiment réfléchir à la forme, la taille des pièces, l'assemblage, d'où on va aller chercher la matière, avec quel fournisseur stratégique on va travailler et si demain le produit devait être démantelé, comment est-ce qu'on le recycle ou est-ce qu'il retourne à la terre, est-ce qu'il va avoir une deuxième vie, etc. etc. Donc c'est la responsabilité, elle est devenue hyper stratégique finalement et c'est pour ça que le design est pour moi extrêmement important au sein d'une organisation, quelle qu'elle soit. Hein. Design circulaire, c'est le premier point. Le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, pour l'instant, je l'ai baptisé comme expérience puisqu'on a commencé ça il y a un an seulement. On a vu l'impact que ça avait eu dans notre démarche, donc ça booste toute la phase créative, c'est énorme. Et puis, il y a une vraie question d'optimisation temporelle. Donc, on va pouvoir être plus créatif, plus performant en un minimum de temps. Ensuite, le troisième point, donc c'est toute la partie support qu'on a auprès du marketing et de la communication. En 6 ans, on a réussi à harmoniser tous les visuels, tous les produits, avoir une harmonie design, une harmonie graphique, une harmonie générale pour la communication à l'extérieur. Et depuis 2020, où on a accueilli notre nouveau PDG, autrefois on avait Laurent Burel qui était PDG, et d'ailleurs c'est une entreprise familiale, hein, donc ça a été plusieurs monsieur Burel qui étaient à la direction de Plasticomium. Et en 2020, voilà, on a accueilli une personne extérieure pour la première fois, donc Laurent Favre. Et donc là, on a eu un changement assez radical sur le type de management qu'on avait. L'ancien était excellent, le nouveau est excellent également, à la différence que peut-être l'exposition de Plasticomium d'un point de vue communication, c'est devenu beaucoup plus transparent aux yeux du public, parce que Plasticomium était très peu connu avant, et aujourd'hui on a un management qui est très moderne et qui emploie, je crois, des outils de communication et de management qui sont assez excellents. Donc on a une entreprise qui est excellente depuis le début sur plein de points. Donc là, on nous a un peu ouvert les portes en 2020 pour nous dire, voilà, allez-y, profitez-en, on a besoin de vous pour ça, d'un point de vue communication, marketing, image, com, etc. Et ça, c'était une liberté d'expression extraordinaire et on a choisi tous ensemble, c'est un travail d'équipe évidemment, pour savoir comment communiquer sur nos produits, pour la division IES en tout cas, et puis aussi pour d'autres divisions. Ensuite, on a la partie événements. Donc ça correspond aux tech days, aux motor shows, etc. Les tech days, on va carrément chez le constructeur, on vient avec toutes nos maquettes et puis on fait une présentation dans un showroom de tout notre savoir-faire, nos showcases, les dernières innovations, etc. Comme ça, les gens, ça leur permet de tous être présents parce que si on fait ça à l'extérieur de chez eux, c'est difficile de déplacer tout le monde finalement. Donc c'est nous qui nous déplaçons et c'est des journées qui sont extrêmement fructifiantes puisqu'on voit d'un constructeur à un autre, quels sont les intérêts pour les uns pour les autres. Peut-être qu'une marque va pas du tout s'intéresser à la même chose qu'une autre, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies à long terme. Et puis le dernier, c'est les partenariats. Et le partenariat, pour moi, il est indispensable au niveau du design pour travailler main dans la main en amont. sans court-circuiter évidemment le purchasing, parce que la stratégie achat, elle est très ancrée surtout chez les constructeurs historiques. Mais nous, au design et avec les designers des design centers, on a très envie de travailler en amont parce que c'est un laboratoire d'idées finalement. C'est un laboratoire de stratégie, de quel produit on va déployer dans le futur, parce que la mobilité va changer de visage, elle va changer d'usage, etc., etc. Voilà, ça c'est l'organisation du design studio avec les différents rôles et missions qu'on a au sein de celui-ci.
Très bien. Eh bien, Claire, je te remercie beaucoup pour cette explication du design chez Plasticomium.